Bonjour à chacune, à chacun. Nous avons lu tout à l'heure le chapitre 1 de la lettre que Paul adresse à Tite. Et je vous invite à avoir sous les yeux le texte biblique. Tite, chapitre 1. Alors, Tite, bien plus jeune que l'apôtre Paul, mais c'est un de ses bras droits. C'est son enfant légitime dans la foi. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est la fête des pères. Eh bien, il y a aussi des enfants spirituels et des pères spirituels. Et dans l'église naissante, sur l'île de Crète, l'évangile était parvenu et des églises s'étaient constituées. Mais c'était un peu le début et tout n'était pas encore mis en ordre, réglé, constitué. Et donc au verset 5, nous voyons que Paul a laissé sur l'île de Crète ce fameux Tite afin qu'il puisse finir de veiller à la bonne organisation d'une église locale, des églises locales, et en particulier en s'assurant que dans chaque ville de cette île où des noyaux de chrétiens s'étaient formés, des églises locales existaient, en veillant à ce qu'il y ait des anciens, des responsables qui sont appelés un petit peu plus bas, des évêques. C'est le mot qui est employé ici, des évêques. Alors, dans ce chapitre aujourd'hui, je ne vais pas m'arrêter et m'intéresser aujourd'hui à la thématique des anciens ni de leur qualification. Mais c'est un chapitre qui nous permet d'aborder un thème assez, je dirais, assez rare dans la parole de Dieu. Et c'est la question de notre culture. Voilà une église sur l'île de Crète avec une culture crétoise. Nous avons des églises en France avec une culture française, des églises aux États-Unis avec une culture américaine. Et puis on peut multiplier comme ça, chacun avec notre culture, notre arrière-plan. Pourquoi ? Parce que le Seigneur a fait que tous les hommes issus d'un seul sang, sur la surface de la terre, forment des familles, des peuples, des tribus, des nations. Et que chacune se diversifie et que chacune finalement ait une identité qui lui est propre. Et lorsqu'on rencontre Jésus-Christ, on rencontre Jésus-Christ avec la culture qui est la nôtre, l'identité qui est la nôtre. Et quand on rencontre Jésus-Christ, Jésus-Christ, lui, nous donne une nouvelle identité. Vous êtes d'accord sur ça ? Et voilà qu'il va y avoir, finalement, peut-être un combat, un progrès, une marche, pour passer d'une identité et d'une culture où en plus on était ennemi de Dieu, et pour passer à cette pleine identité de chrétien, d'enfant de Dieu en Jésus-Christ, qui a une nouvelle identité et qui vit et qui marche selon cette nouvelle identité. Alors, pour bien comprendre un petit peu cela, on va le voir dans notre passage, ici à Crète, d'abord, on est crétois. C'est-à-dire qu'on est crétois, on est quelqu'un du terroir qui n'a pas encore entendu l'évangile, qui n'a pas encore rencontré Jésus-Christ, on est du cru, on est d'ici et on est comme on est ici. D'accord ? On est crétois. Puis, on entend l'évangile et on reçoit Jésus-Christ comme son sauveur et seigneur. Et là, on devient un crétois chrétien. D'accord ? Un crétois chrétien. Mais crétois d'abord. Crétois avant tout. Chrétien aussi, mais ça vient en deuxième. Parce que ma culture, pour l'instant, a des ancrages et des racines que mon identité en Jésus-Christ n'a pas encore déraciné. Donc je suis d'abord un crétois chrétien. Et le Seigneur veut me faire progresser, me changer pour que je devienne un chrétien crétois. Mais chrétien avant tout. Un chrétien crétois. Alors peut-être je suis français, puis je suis un français chrétien, et le Seigneur veut me faire progresser pour que je devienne un chrétien français. Peut-être je suis... Alors, ce matin, nous avons beaucoup d'origines différentes. On a... Moi, ça me fait tout le temps rire quand Gérard... il me dit, oh, ma femme, elle est française. Elle est... Moi, je suis gitan. Les gitans sont français, mais c'est des gitans. Et c'est vrai qu'il y a une culture du terroir particulière. Ici on a des gens qui viennent de Madagascar, on a des gens qui viennent de Roumanie, on a des Américains ce matin, on a la Centrafrique, on a l'Angola, on a Haïti aussi je crois, ça commence à faire, on a même la Lorraine. Ah, l'Italie. Et l'Italie. Pas mal d'ailleurs, hein, d'origine italienne, oui. Voilà. Et chacun, eh bien, on emmène une culture. Et dans cette culture, il y a des points forts, puis il y a des points faibles. Ici, regardez un petit peu le verset 12 et 13. Ça gifle, hein, ça ramasse, hein. Parce qu'il y a quand même un peu des soucis en Crète avec une culture crétoise et des crétois chrétiens. Mais crétois avant tout. Et le verset 12 dit « L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit « Crétois, toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux. » Alors ce fameux prophète, c'est un poète en fait, c'est Épiménide, 6 siècles avant Jésus-Christ, un très célèbre poète, crétois, Épiménide. Et il a dit de ses propres co-nationaux, enfin le mot m'échappe, hein. Les Crétois, nous, on est des menteurs, toujours menteurs, des méchantes bêtes et des ventres paresseux. Bon, est-ce que c'est un a priori ? Paul, qui n'est pas Crétois, dit au verset 13, ce témoignage est vrai. Et bam, voilà, prends ça, là c'est bien envoyé, bien ramassé, hein ? Sauf que c'est une réalité. Et il y a un moment on traîne derrière soi un bagage, une culture qui a ses points forts, mais qui a aussi ses failles, et appelons-les par leur nom, ses péchés. Les choses qui sont des caractéristiques régionales, nationales, culturelles, mais qui sont contraires aux caractéristiques du royaume de Dieu. Or, nous sommes devenus citoyens du ciel. Le problème, c'est qu'on est souvent d'abord encore citoyen de la terre, puis aussi un peu citoyen du ciel, mais d'abord citoyen de là où on est. Et dans l'église en Crète, eh bien, il y avait des choses à régler. Et justement, parce que le Seigneur transforme l'être humain qui vient à lui dans ce qu'il est, dans sa culture, une culture qui a des bonnes choses, mais une culture qui transporte avec elle aussi et bien les effets du péché, des travers, des défauts, le Seigneur veut corriger et veut changer cela. Alors ici, nous avions peut-être le contraire. Vous savez, on dit les Allemands, par exemple. Les Allemands, ils sont travailleurs. Ils sont travailleurs. Bon, ben là, c'était des ventres paresseux. J'ai l'impression qu'au nord, on est beaucoup travailleurs. Plus on va vers le sud et plus on est un peu cool, tu vois. C'est le climat. D'ailleurs, ici même en France, on voit ces différences de mentalité et de culture. Vous allez en Alsace, c'est pas du tout la même mentalité qu'ici dans le sud. Ça se voit même dans les villes, là-haut c'est propre, plus on va vers le nord, et plus souvent c'est très propre, très coquet, très soigné et tout, ici c'est pourri. Les maisons, les façades, les... Non, c'est... on n'a pas la même mentalité dans le même pays. Et on transporte notre culture. Alors là, ils étaient des ventres paresseux. C'est pas très gentil, mais c'est une réalité. Une culture de la paresse. Et Paul, il dit, il va falloir que ça s'arrête dans l'église. Dans l'église de Jésus-Christ, on va devenir des chrétiens crétois. Mais chrétiens avant tout, donc, qui alignent leur vie sur les valeurs de la citoyenneté du ciel. Et s'il y a des choses à juger dans ma culture, je vais les juger. S'il y a des choses à abandonner dans ma culture, je vais les regarder en face, à la lumière de la parole de Dieu. Et je vais les juger, je vais les mettre de côté. Pour cela, Paul demande qu'on établisse des anciens qui aient passé le cap. Des chrétiens crétois en tant que responsables d'église, et pas des crétois chrétiens. Des chrétiens qui ont avancé avec Jésus-Christ et qui ont vu, comme Épiménide d'ailleurs, qui était du cru, hein, dans sa propre culture, de dire, non, c'est vrai qu'on est un peu comme ça, nous. Hein. On a un peu tel défaut, on a un peu tel... Ouais, mais non. On va le régler avec le Seigneur. On doit marcher en nouveauté de vie, là où c'est nécessaire. Et nous voyons toute une liste de qualifications qui vont faire appel, justement, je dirais au travers du terroir, et où on va s'assurer que les responsables de l'Église soient des gens qui n'emportent pas dans leur ministère pastoral ces travers qui sont bien ancrés et qui continuent d'éclore en toute sérénité. Eh bien non, des responsables d'Église qui ont mis le doigt sur ces choses et qui vont pouvoir faire avancer le peuple de Dieu avec eux pour, tel que c'est exprimé dans Romains, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Oui, il y a un moule. On est éduqué depuis tout petit dans une culture et forcément on va s'en imprégner. Mais lorsque l'Esprit de Dieu vient habiter dans notre vie, ce qui n'est pas selon la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, eh bien, le Saint-Esprit va renouveler notre compréhension, notre vision, notre intelligence en disant « Non, telle chose, je ne vais pas me conformer, même si c'est culturel. Telle autre, c'est culturel. Et il n'y a pas de souci avec la volonté de Dieu. » Eh bien, c'est une caractéristique de notre spécificité culturelle. Tant mieux, je vais le vivre. Ça fait partie de mes racines, ça fait partie de mon bagage et c'est une belle chose. Mais les travers, je vais les régler. Pour devenir d'abord un chrétien qui ne cesse pas d'être crétois, d'être français, d'être américain, d'être roumain, d'être... et avec une variété que le Seigneur souhaite. Alors, c'est l'occasion de dire un mot sur cette variété. Pourquoi ? Parce que cette variété, c'est le Seigneur qui l'a voulu. Dans notre nouveau jardin, chaque jour, on est très heureux de découvrir ce que d'autres ont planté pour nous, en fait. Mais, et il y a une variété de plantes et de fleurs qu'on découvre tous les jours. On est toujours surpris. Et chacune a sa petite touche, sa forme, sa saison, etc. Hier, on a découvert un buisson. Je ne savais pas ce que c'était ce buisson. Moi, je voulais le raser. Esther m'a dit, non, il va devenir beau. Ça y est, hier, il avait fleuri. Il était magnifique. Une variété. Que trouverons-nous au ciel ? Que lisons-nous dans l'Apocalypse ? Des hommes de toute famille, de toute tribu, de toute nation, de tout peuple, de toute langue, mais qui sont devant l'agneau. Amen. Une variété, parce que le Seigneur aime la variété, s'il a créé justement, comme dans mon jardin, toute une variété de plantes, c'est parce que le Seigneur n'est pas monotone. Comprenez ? Le Seigneur n'est pas monotone. Et dans la diversité des familles et des cultures, il y a l'empreinte de Dieu dedans. Il y a cette empreinte d'un Dieu qui n'est pas uniforme, mais qui est tellement riche et varié. Et que nous retrouverons tous ensemble là-haut. Seulement, toutes ces plantes diverses et variées, elles sont plantées sur le même sol. Vous enlevez le sol, il n'y a plus de plantes. Et toute cette diversité de fleurs que je peux trouver, elles ont tout en commun d'être enracinées dans le même sol. Et c'est ce que le Seigneur veut pour l'Église. Nous sommes aujourd'hui une Église, nous l'avons vu, on vient de plein d'horizons culturels différents. Alors, c'est pas toujours facile, le choc des cultures. Si on est d'abord un Français chrétien, puis un Roumain chrétien, puis un Centrafricain chrétien, on est d'abord dans sa culture avant d'être chrétien. Alors, on a du mal à s'apprécier, des fois. On a du mal à se comprendre. Comme dit un film... C'est notre culture, hein. Bon, c'est Astérix, c'est très philosophique. C'est une autre culture. Oui, on comprend pas, on n'a pas le même humour, on n'a pas le même la même organisation. Mais quand on est ancré dans le même sol, quand on est tous ancrés en Jésus-Christ, alors on est d'abord chrétien. Et ça, c'est ce que nous avons en commun, en premier, mis au premier plan de notre vie. Vous voyez, on est dans une époque aujourd'hui où de plus en plus, en raison des techniques qui évoluent, de plus en plus on s'oriente entre guillemets vers une communauté mondiale. Ça évolue très vite. Quand vous regardez, par exemple, ce film Jean de Florette, la fameuse Florette avait épousé un gars de Crespin. C'est un peu comme si un gars de Fontvieille va épouser un Avignonnais. Scandale! Il épouse un étranger. On n'a pas du tout la même culture à Avignon et à Fontvieille. Bon, aujourd'hui, on traverse plusieurs milliers de kilomètres parce que on bouge et parce que la communication, etc., le monde s'est accéléré. Et aujourd'hui, on s'oriente vers une communauté plus mondiale qu'autre chose. Mais qu'est-ce qui va faire ? Quelle culture ? Quel ancrage commun à cette communauté mondiale ? Alors, fut un temps, c'était un peu l'idée du communisme, hein, travailleurs de tous les pays, unissez-vous. Oui. Ben, vous avez quoi ? Ce qui est extraordinaire, c'est que l'Église, et seule l'Église, peut réellement réaliser cette communion, communauté mondiale, être un chrétien d'abord français, un chrétien malgache, un chrétien avec une diversité de cultures et de richesses. Il y reviendra tout à l'heure. Mais d'abord avec ce sol commun, cet ancrage commun qui est Jésus-Christ. Et ce n'est pas rien. Pourquoi ? Parce que il s'agit pour cette communauté mondiale, j'ai envie de dire, pour cet être humain séparé en plein de langues, de tribus, de nations, de peuples, de familles, d'avoir un terreau commun, un ancrage commun. Que dit la Bible ? Nous sommes tous issus d'un seul sang. C'est-à-dire que nous venons tous du Créateur. Nous venons tous d'un Dieu qui dépasse les cultures. Dieu n'est pas français, n'en déplaise aux Français. Il n'est pas non plus chinois. Il est multiculturel puisque c'est lui qui a créé cette diversité. Amen. Et nous avons un Dieu au-dessus de nos cultures et nous venons tous de lui. Et c'est formidable lorsque l'être humain peut revenir à la source, à sa source, à la source de son être, de son identité, de son existence, qui est Dieu. Nous avons été créés à l'image de Dieu, tous issus d'un seul sang. Et voilà pourquoi nous sommes appelés à ce progrès et à cette transformation. Peut-être le Seigneur me trouve, il me trouve comment ? Français. Et là, je deviens un Français chrétien. Mais le Seigneur dit, j'ai pas fini mon travail avec toi. Je veux faire de toi un chrétien français. Et lorsque dans l'Église, nous devenons ces disciples de Jésus-Christ qui dépassons finalement notre culture et sachons nous aligner sur la citoyenneté du ciel, tout en restant nous-mêmes, tout en restant dans notre identité culturelle. Eh bien oui, il y a une vraie et profonde communion qui se crée parce que nous sommes des chrétiens qui avons le même sol, le même ancrage, le même Père Céleste, le même, dit une épître, le même Dieu et Père de tous, qui est avec tous et qui est en tous. Amen. Alors, ça nous pose la question, nous, de réfléchir chacun, dire c'est vrai, je viens de telle culture, j'ai été éduqué dans telle culture, mes parents ont telles origines et ils m'ont transmis une culture. Celui qui me dit que dans aucune de nos cultures il n'y a des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, c'est qu'on s'est mis un doigt, on s'est mis le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Hein. Pourquoi ? Parce que justement, le péché est entré dans le monde, et le péché étant entré dans le monde, il contamine toutes nos cultures. Vous êtes d'accord sur ça ? Et donc, nous avons besoin de dire, ma culture, s'il y a des travers dont elle est porteuse, ce sont lesquels ? Alors, souvent, on a besoin d'un regard extérieur. Paul qui dit, ouais, ce proverbe, ce témoignage est vrai. Crée-toi, ventre paresseux. Oui, en proportion, il y en a 80%, c'est vrai, quoi. Les Français, ça serait quoi ? Râleur ? Têtu ? Je ne sais pas. En fait, on a du mal, hein. Souvent, on a besoin d'un regard extérieur. On aurait besoin de demander à un Américain, à un Roumain qui dit, au fait, les défauts, en gros, les défauts des Français, c'est quoi ? Et forcément, eux, ils viennent d'ailleurs, donc forcément, ils arrivent et disent, ah, ils sont comme ça, ouh ! Ça nous ferait du bien, hein ? Ça sert à ça, l'Église. N'est-ce pas ? Et voilà pourquoi Paul a laissé Tite qui ne vient pas de Crète, hein, mais qui est là, comme Paul, pour dire, écoutez, les gars, rendez-vous compte que dans votre culture, et il n'y a pas que moi qui le dis, il y a Épiménide, ouvrez les yeux. Ne faites pas l'autruche. Il y a des bonnes choses dans la culture, mais il y en a qui ne sont pas bonnes. Alors aujourd'hui, on ne va pas s'arrêter sur une culture particulière, parce qu'on est trop multiculturel. Hein. Mais chacun de nous est invité à réfléchir à ce qui a forgé notre mentalité, notre caractère, notre manière de penser, hein, ces modes de pensée, ces modes d'action. Et c'est important. Parfois, il y a aussi des microcosmes, hein, ce n'est pas qu'une culture nationale, des fois c'est très régional, des fois c'est aussi communautaire. Je pense par exemple à ma maman, qui a été élevée dans un milieu très communiste, communiste 100%. Hein, ici, on a un maire communiste. Elle, c'était Saint-Denis, au lieu du communisme. Premier voyage qu'elle a fait, c'était encore le rideau de fer, c'était l'URSS. Et puis les jeunesses communistes, et puis tout le monde communiste. Hein. Ça nous forge une mentalité. Il y a des traits, il y a des choses, il y a peut-être des bonnes choses, mais il y a aussi des mauvaises choses. Bon, voilà, un microcosme. Et quels sont nos microcosmes ? Quels sont, nous, dans notre vécu, ce qui a influencé, qui a forgé ce que nous sommes aujourd'hui ? Et comment Dieu nous a trouvés ? Il a trouvé les Crétois, c'était pas pour critiquer spécialement telle personne, c'était de dire, non, vous êtes les héritiers de votre culture. L'Épître aux Hébreux nous dit qu'il nous a rachetés de la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères. Épître aux Hébreux nous a rachetés de la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères. Et là, ce verset nous parle non seulement des pères, c'est-à-dire dans la culture, dans l'identité nationale, régionale, communautaire, mais aussi de nos parents tout court. Nos parents nous transmettent leurs valeurs. Et c'est vrai que à un moment, on se retourne et on dit, attends, maintenant j'ai quand même un Père Céleste. Quelles sont les valeurs de mon Père Céleste ? Est-ce que les valeurs de mon Père Céleste sont en accord avec les valeurs dans lesquelles j'ai été éduqué par mes parents ? Fussent-ils chrétiens ? Et lorsque c'est pas tout à fait en accord, il n'y a pas une loyauté, j'ai envie de dire, à avoir envers ses parents. On est d'abord loyal envers qui ? Envers le Seigneur. S'il y a des choses à changer, on dit, mes parents, ils avaient tel mode de pensée, mais il est contraire à l'Écriture. Donc c'est nocif, c'est toxique, c'est pas bon. Ça les regarde, c'est leur vie, je ne juge pas. Mais pour moi, je vais m'en défaire. Et je ne vais pas le perpétuer. Alors, toutes ces cultures, c'est à la fois une richesse et puis des difficultés. En tout cas, des défis. Et il est très intéressant de voir les épîtres et les villes auxquelles les apôtres écrivent sous cet angle-là. Imaginez maintenant qu'un homme crétois se marie avec une femme corinthienne. Ah, quand Paul écrit aux Corinthiens, on n'est plus en Crète. Et à Corinthe, le grand sport national, c'est le sexe. Eh oui, à Corinthe, c'est une débauche telle qu'elle n'est pas même nommée, dit-il, ailleurs dans les autres régions. Corinthe était connue pour sa sexualité complètement débridée. Et forcément, puisque on était d'abord corinthien et qu'on devenait un corinthien chrétien, eh bien, on emmenait sa culture dans l'église et Paul, lisait l'épître aux Corinthiens, il est obligé de faire du ménage et de mettre les points sur les i dans l'église parce que il y a des trucs ahurissants qui se produisent au niveau de la débauche et du n'importe quoi de la vie sexuelle des Corinthiens chrétiens, pas des chrétiens corinthiens, hein, comprenez ? Et il les encourage à devenir des chrétiens corinthiens. Et quel ménage doit-il faire ? On lit l'épître aux Corinthiens, on se dit... Alors imaginez un crétois qui épouse une corinthienne. Un crétois chrétien qui épouse une corinthienne chrétienne qui n'ont pas encore réglé les bagages de leur culture. Alors là, ils cumulent les problèmes. Et en plus, ils vont s'établir à Athènes, tiens. Partent à Athènes. Alors à Athènes, le livre des Actes nous dit que là-bas, le sport national, c'était de passer son temps à se renseigner, à entendre tous les nouveaux modes de pensée. C'était la capitale de la philosophie, des modes de pensée, etc. Et lorsque Paul arrive à Athènes, on l'invite, alors vas-y, que veut nous apprendre ce discoureur ? Un nouveau truc à la mode, peut-être ? Voilà, c'était la grande ville de l'œcuménisme, j'ai envie de dire. D'ailleurs, Paul dit, c'est incroyable tout ce qu'on trouve comme idole dans votre vie. Il y a de tout, et tout est très harmonieux entre vous. Hein. Vraiment, même le Dieu inconnu, le truc. Il y a de tout. C'est vraiment la capitale de la pensée œcuménique et de saisir les valeurs à la mode. Les courants de pensée à la mode. Ça veut dire quoi aujourd'hui pour nous ? Ça veut dire plutôt que comme dans l'épître au Tite, il est parlé d'être attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée selon la saine doctrine. À Athènes, la mode, c'est plutôt de dire on va adapter l'Église aux courants de pensée qui sont en vogue actuellement, comme ça on est en phase avec la société. Vous comprenez ? Pour être en phase avec la société, avec notre monde dans lequel on vit, tel courant de pensée, là en ce moment, c'est ça la cote, ce truc. C'est pas mal, on va l'essayer. Puis on va le prendre dans l'église, hein, on va l'adapter. Alors je vous dis pas, la famille, un père crétois, ventre paresseux, une mère corinthienne, aux mœurs légères, dans une ville où plutôt que d'être attaché à la saine doctrine, on saisit tous les courants de pensée à la mode pour les vivre. Ben, les enfants, ils ont un sacré héritage. Hein. Ah, ils ont des valises. Hein. Est-ce que ce n'est pas la réalité pour nous aujourd'hui ? Oui. Bien sûr. Et c'est pour ça que Paul... Regardez le verset 13, ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sympathiquement. Tranquille, tranquille, ou vas-y, cool, hein. Vas-y, oh, ne force pas la note quand même. Non, il dit reprends-les sévèrement. Il dit non, il y a un vrai enjeu là. Et c'est logique. On parle tout le temps du salut. Dieu nous a sauvés. Nous étions perdus. Oui, mais on était perdu. Mais dans notre culture, dans notre identité d'être humain, coupé de Dieu, séparé de Dieu, avec une culture où Dieu n'est pas le maître, où Dieu n'est pas le roi. Oui ou non ? On était perdu dans notre identité culturelle aussi. Et quand le Seigneur veut nous sauver, nous transformer, il veut s'attacher aussi à ça. Souvent, vous savez, on parle souvent du péché, de la sanctification, de nos progrès à titre un peu individuel. Bon, lui, il est un peu colérique. Moi, mon défaut, c'est plutôt l'impatience. Moi, c'est un peu l'égoïsme. Et c'est vrai. Chacun d'entre nous, ben, on n'est pas uniforme. Et on a beau être français ou ceci ou cela, on ne se ressemble pas non plus. Hein? Et le Seigneur va travailler chacun individuellement dans ce qui nous est propre et dans ce qui nous est personnel. On parle souvent de la sanctification sous cet aspect un peu individuel, personnel. Mais il existe aussi une dimension un peu plus collective de ce qu'on emporte de notre culture. Alors, c'est pour ça que je vous dis, ce chapitre-là, c'est un des rares chapitres qui permet d'en parler, en fait, dans la parole de Dieu. C'est pour ça que j'ai axé sur cela aujourd'hui. Il y a peu de passages où on peut retrouver quelque chose d'aussi clair. Voilà. On doit en prendre conscience. En même temps, c'est une richesse, la diversité. Ce qui appauvrit, c'est la consanguinité, oui ou non ? Quand on se marie avec des gens de notre propre famille, on ne change pas de famille, on ne change pas de culture, on ne change pas de mentalité. Et physiquement, évidemment, la consanguinité font que, et c'est très intéressant la consanguinité, ce sont des défauts génétiques, oui. Et comme on est de la même famille, parfois on a justement les mêmes défauts génétiques. Et quand on a des enfants ensemble, eh bien, ces deux défauts génétiques se superposant, ça développe concrètement la maladie elle-même. Donc la consanguinité, c'est pour ça que pas bon. Hein? Bon, aujourd'hui, on le sait. Mais ça nous éclaire sur le fait que c'est important d'aller vers l'autre. Lorsqu'on se marie, on va vers quelqu'un d'autre qui n'a pas eu la même famille, qui n'a pas eu la même éducation, qui n'a pas le même passé, qui n'a souvent pas la même culture. Alors ça peut faire des frictions, mais comme on s'aime et qu'on veut construire un foyer, on passe au-delà de peut-être de ces vous faites comme ça vous, mais nous c'est mieux, hein, nous on a l'habitude, ouais, pourquoi tu dis c'est mieux et tu critiques ma famille, ma culture, voilà. Et puis on est confronté à une autre culture et en fait on va s'enrichir, oui ou non, parce qu'on va voir d'autres manières. Alors il y a ce qui est clairement pas bon, contre la volonté de Dieu, mais il y a plein d'autres choses qui ne posent pas de problème. C'est une autre manière de faire, c'est tout. Et elle ne s'oppose pas à la parole de Dieu du tout. Et ça enrichit. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils formeront une seule chair. Il crée une nouvelle entité. Parce que chacun apporte sa culture, chacun apporte son éducation, et on n'est pas là pour tirer l'autre de... Vous savez, on tire la couverture à soi, quoi. Non, on va faire une famille selon le modèle de mes parents. Ah ben non, moi je préférerais une famille selon le modèle de mes parents. Ah ben, il va falloir trouver quelque chose là. Ben on va prendre ce qu'on est chacun, on va les mettre ensemble, et puis ces deux cultures différentes, on va en faire une troisième identité. Ils deviennent une seule chair, quitter père et mère et devenir un seul. C'est un petit clin d'œil à nous, parents, hein, pour bien réaliser que les enfants que nous avons, quand ils se marieront, ils vont amener dans la famille du sang neuf une autre culture, parfois très loin, et on va devoir s'y adapter. Et on va devoir ne pas mettre une sorte de joug, hein, comme on peut le mettre, de dire non, nous ça c'est notre culture, on est comme ça, c'est nos valeurs, donc si j'ai un gendre, il a intérêt à être comme ça et à se conformer au moule. Bon, si on veut avoir des problèmes de famille, on s'y prend comme ça. Si vous ne voulez plus voir vos petits-enfants, faites-le, c'est formidable, vous ne serez jamais embêté le dimanche. Vous serez seul. Et non, mais c'est une richesse. Et dans l'Église, c'est vrai aussi. Et c'est formidable de voir d'autres églises, d'autres chrétiens avec des cultures différentes. Pour autant qu'elles soient bibliques. Alors, il y a un danger. Le danger, c'est que il y a des, j'ai envie de dire, des faux docteurs, des personnes dans l'épître de Tite ici, qui sont appelés des gens rebelles, des vains discoureurs, des séducteurs auxquels il faut fermer la bouche, ils bouleversent des familles entières. Enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Un petit peu plus loin, au verset 16, il dit « Ils font profession de connaître Dieu ». Mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Dans l'église à Crète, dans les églises à Crète, eh bien oui, il y avait des personnes qui s'étaient saisies peut-être de ce nouveau courant de pensée religieux, tiens, des chrétiens, et qui faisaient profession de connaître Dieu. Donc il dit, ouais, moi j'y crois comme toi. Mais en vrai, c'était pas vrai. C'était faux. Ce n'étaient pas des vrais chrétiens. C'était des crétois. Mais des crétois tout court. Même pas des crétois chrétiens. Mais des crétois pas chrétiens qui se faisaient passer pour chrétiens. Et même qui parvenaient à se faire passer pour des chrétiens crétois parce qu'ils en venaient à enseigner. Ils enseignaient. Et ils réussissaient, nous dit Paul, enseignant ce que l'on ne doit pas enseigner. Ça veut dire quoi? Et après vient toute la culture crétoise, etc. En gros, ça veut dire qu'ils réussissaient à théologiser, j'ai envie de dire, à donner un crédit théologique à toute la manière crétoise de vivre. Pour dire, en fait, les gars, on ne change rien. On reste des crétois, c'est formidable. Ventre paresseux, mais il ne faut pas le prendre comme ça. Regardez ce que dit la parole, peut-être ça. Hop, 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 on enrobe pour que surtout, on reste des ventres paresseux, on reste des gens malhonnêtes, pour un garanteux, parce que quand on ne veut pas travailler, il faut se faire du pognon d'une manière ou d'une autre. Vous êtes d'accord? Eh ben oui, on ne veut pas trop travailler, donc l'argent ne doit pas trop avoir d'odeur, du coup, hein, parce que c'est ça le gain honteux. Hein. Voilà. On reste avec cette culture de menteur. Menteur. Ah, le mensonge. Non, mais le mensonge, philosophons. Un mensonge est-il réellement un mensonge? Un mensonge, il y a des bons mensonges. Il y a des mensonges qui sont en fait des vérités. Vous commencez à prendre la tête aux gens comme ça. On avait eu un sujet de philosophie sur ça, hein, sur le mensonge. Mais voilà, la question du mensonge. Comment légitimer le mensonge? Jésus l'a dit, Satan, c'est le père du mensonge. Voilà, c'est tout. Mais on peut enrober. Et on va enseigner ce qu'on ne doit pas enseigner, c'est-à-dire comment rester dans les péchés de notre culture tout en étant un chrétien. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Le mariage homosexuel en est un exemple. On enrobe théologiquement, on l'explique, on le justifie. Comment vivre selon l'air du temps et le justifier dans l'Église? Voilà, ça se faisait déjà en Crète. Hein? J'imagine que ça se faisait à Corinthe. J'imagine que les Corinthiens, dans l'Église, étaient des grands champions pour montrer par A plus B que non, la débauche, c'était pas un problème, en fait. C'est, le Seigneur, tout va bien. Le Seigneur a créé le sexe, il a créé tout ça, c'est pour qu'on, vraiment qu'on le vive pleinement. Enfin, tu l'enrobes, tu vois? Eh ben, Tite, il a la mission de leur fermer la bouche. Il dit, on doit leur fermer la bouche. Tu dois mettre en place des vrais chrétiens crétois qui ont jugé ces choses et qui seront attachés, verset 9, à la vraie parole, afin d'être capables d'exhorter selon la saine doctrine. Là, on est en train... Qui est la cible de cette exhortation? Ce sont les crétois chrétiens. Mais qui sont toujours crétois avant tout, mais de vrais chrétiens quand même, mais d'abord crétois. Et ils ont besoin d'une solide exhortation selon la saine doctrine, parce qu'ils sont entre les deux, et tant qu'ils entendent la voix des séducteurs, ça bouleverse des familles entières. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Alors, soyons sensibles à cela. En conclusion, hein. Premièrement, on peut réfléchir chacun dans nos origines nationales, régionales, communautaristes, nos microcosmes peut-être, nos parents. Qu'est-ce que j'ai hérité comme vaine manière de vivre, de ma culture? Et sur quoi le Seigneur veut me rendre attentif pour l'écarter de mon chemin? Tout en gardant ce qui est bon. Le Seigneur nous dit, retenez ce qui est bon. Voilà, retenez ce qui est bon. C'est bien, cette diversité. Mais le péché étant entré dans le monde, vous allez fouiller, vous allez détecter ce qui s'est glissé dans la culture, ce que Satan a instillé dans la culture. Et puis on ne va pas marcher comme ça. On va voir ce renouvellement de l'esprit pour discerner la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. Première chose, et ça c'est un travail pour chacun de nous, se poser des questions et le résoudre. Plutôt que de dire, ah ben on a toujours fait comme ça, ah mais nous on est français, hein, eh, oh, sinon on n'est plus français, hein, ah ben ça c'est notre culture, on met beaucoup de choses sur le dos de la culture, vous voyez. Ben celui qui devient un chrétien français, américain, roumain, il apprend à ne plus mettre sur le dos de la culture. Il dit non, ça, cette partie-là, c'est un piège. Dans ma culture, c'est un piège. Dans ma culture, c'est ancré et c'est un problème et je ne vais pas suivre ça. Et là, on va faire des progrès. Hein, on va vraiment faire des progrès. Donc, réfléchissons à cela. Et puis, soyons attentifs aux dangers présents dans le monde chrétien, dans le christianisme. Parce que là, nous sommes à Crète dans le christianisme. Prenons conscience et faisons attention que Satan veut aussi nous piéger par le biais de personnes, de faux docteurs, de séducteurs qui, d'une manière ou d'une autre, on voit au chapitre, comme on dit, hein, le chapitre c'était la chair, hein, c'était le pupitre, là où on peut donner un enseignement. Eh bien oui, prenons conscience que Satan veut se saisir de notre culture pour nous empêcher de devenir chrétien avant tout, chrétien d'abord, et pour nous maintenir, culture d'abord et puis chrétien ensuite. Voyez l'idée ? Satan, lui, il a déjà perdu. Si on est sauvé, si on a donné notre vie à Jésus, déjà il a perdu une âme. Mais il va se faire un malin plaisir justement à ce qu'on ne progresse pas à la ressemblance de Jésus-Christ. Alors que le Seigneur nous aide à cela, à nous examiner, à nous sonder nous-mêmes. C'était la prière du psalmiste, regarde s'il y a en moi quelques voies de chagrin, quelque chose qui ne va pas. Autant moi, individu, mais autant dans ma culture. Et comme c'est de la culture, il y a une imprégnation et une collectivisation qui fait que ça nous échappe. C'est plus difficile. Prions. Seigneur, merci parce que tu as la puissance de nous racheter de la vaine manière de vivre que nous avons héritée de nos pères. Nous voulons te demander, Seigneur, de nous aider à faire le point, à déceler ces mauvais bagages de notre héritage culturel, familial, pour devenir chrétien avant tout. Tu vois où nous en sommes ? Et nous voulons te demander de, par ton esprit vraiment, de nous éclairer à ce sujet. Pour que aussi nous puissions réellement être en communion avec nos frères et sœurs d'autres cultures, avec ce terreau commun en Jésus-Christ. Et que nous ne nous trompions pas de combat en critiquant des traits culturels inutilement. Et tu veux faire de nous réellement une église universelle, tous liés les uns aux autres au-delà des frontières, des cultures, parce que nous avons nos racines et notre source en toi, et que nous te mettons au premier plan et en priorité dans nos vies. Alors aide-nous à cet examen, à ce progrès, à cette sanctification. Et aide-nous à être vigilants, Seigneur. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Vigilants. Conscients que Satan veut nous piéger et veut nous endormir aussi par des discoureurs religieux en nous faisant adopter et conserver, Seigneur, de mauvaises choses de notre culture. Que nous puissions nous positionner fermement. Au nom de Jésus. Amen.